BLE Radio.
BLE Radio.
Plus proche des Lorrains.
Game Trip FM, c'est tous les samedis de 11h30 à 12h30 sur BLE Radio. Wesh ma gueule. Wesh ma gueule.
Les sourds McFlan, ils se crèment anglais.
Check ça bien.
T'as vu? T'as vu? On est en direct.
Waouh!
Bonjour à tous, bienvenue sur Game Trip FM, la nouvelle émission spécialement et uniquement dédiée aux jeux vidéo sur BLE Radio, la radio plus proche des Lorrains. Quatrième épisode cette semaine avec évidemment le meilleur de l'actu, des jeux vidéo, du rétro gaming bien sûr, mais pas que, en compagnie d'une partie de la rédaction de GameTrip.net, le site de référence des jeux oldies depuis 11 ans sur internet. Alors on vous explique, on devait être en direct comme d'habitude samedi matin, mais il y a eu une grosse panne sur les ordinateurs du studio et du coup on fait ça ce soir en espérant que vous serez toujours aussi nombreux à nous écouter. Et comme tout le monde adore ce générique, en particulier toi Jérém,
oui.
Je me suis dit qu'on pouvait quand même enfin donner le nom du créateur, c'est la moindre des choses. Ça s'appelle Nostalgia Ain't Shit de Yet et vous pouvez le trouver sur YouTube si vous l'adorez comme nous. Comme la semaine dernière, on va donc continuer à faire un voyage dans le temps vidéoludique. Jérém, tu veux faire une petite blague comme on fait chaque semaine?
Non, mais je préfère quand c'est toi, parce que moi,
un voyage,
il se dégonfle.
On voyage des petits et des grosses bites.
On voyage vers les petites et les grosses bites.
Donc à mes côtés aujourd'hui, vous l'avez entendu, il y a Jérémy qui va nous parler de l'actu des jeux vidéo récents cette semaine. Et cette semaine, le grand retour, on accueille de nouveau Ben pour ses fameuses péripéties vidéoludiques au coin du feu. Émission spéciale Fuchiball cette semaine, du coup, on va raconter tes aventures en crampons et en maillot. Non,
ouais, c'est un peu ça,
dire ça comme
en maillot devant l'ordinateur, quoi.
Ah oui, quand même, il faut pas trop en faire.
Ce qui n'empêche pas d'être en crampon et en maillot.
Voilà, évidemment, on en connaît. Au menu de l'émission ce soir, spécial FIFA 2018 qui vient de sortir, enfin samedi du coup, il venait de sortir hier, maintenant ça va faire un petit peu long. On va débattre ensemble en fin d'émission sur le traditionnel débat de fin septembre, PES ou FIFA, japonais ou américain, qualité tactique ou qualité visuelle, licence ou pas, thé ou café. Pour cela, on accueillera au téléphone personne, puisque cet auditeur ne sera pas là, puisque pareil, on a décalé l'émission, donc il n'y aura personne à 12h15, mais on sera tous là pour en parler ensemble. Notre test de la semaine, ce sera donc dans moins de 25 minutes, ce sera FIFA 18, qui est sorti il n'y a pas longtemps, on y a joué, et on en parle tout à l'heure. À 21h35, on parlera oldies et rétro gaming, évidemment, et puis juste après, on vous fera découvrir une musique de jeu, comme chaque semaine, vers midi et quart, ça fait quelle heure en vrai? Vers midi et quart, ça fait 21h45.
Tout à fait.
Voilà, et aujourd'hui, on va parler d'E-Muse et de la musique de Monkey Island à découvrir, et enfin, on partira ensuite sur notre débat tous ensemble, FIFA ou PES. C'est vous qui parlez aussi sur les réseaux sociaux. Si vous voulez nous transmettre des messages, nous dire ce que vous préférez, laissez un message sur Twitter avec le hashtag GTFM ou le hashtag BLE Radio. Sinon, vous pouvez aussi commenter sur les pages officielles Facebook, BLE Radio Officiel ou GameTrip.net. Et en attendant, on commence avec la revue de presse de la semaine dans le monde des jeux vidéo, pas oldies. Et c'est donc Jérém qui va commencer.
Avec un plaisir non dissimulé.
Dis-moi tout.
Alors, le premier, ça sera un titre d'Ubisoft, pour lequel tu sais que j'ai un amour particulier.
Oui.
Et effectivement, un jeu que j'ai pris, auquel j'ai joué, que j'ai fini d'ailleurs, qui était Ghost Recon Wildlands.
Oui.
Je sais pas si t'as essayé, ou toi, Ben.
Je connais la licence, mais non,
C'est, donc là, c'était du jeu d'aventure, potentiellement en coopératif. Et donc, le but du jeu, c'était dans un univers vraiment, vraiment immense et très ouvert. Et donc, c'était d'infiltrer un cartel de drogue mexicain. Enfin, le truc classique, on va dire.
Oh, quel cliché, ça me désole.
Ah, bah oui, mais c'est malheureusement.
Quel Ghost Recon, surtout.
Et du coup, donc, il est sorti en avril dernier, je crois. Et donc, là, ils vont sortir une extension qui s'appelle le Narco Road. Donc,
encore mieux, allons-y.
Bah voilà,
avec
on tire un petit peu sur la corde.
Et en Colombie, évidemment.
Tacos et des burritos.
C'est ça, en Colombie, Mexique, enfin tout ce qui se passe par là-bas. Donc ça sera dispo. Alors je vous en parle bien en avance, mais il y aura des bêtas et tout ça, donc on vous en reparlera d'ici là. Mm-hmm. Ça sera le 25 avril, donc sur PS4, Xbox One et PC. Et donc là, au lieu d'infiltrer seulement le gang qui s'appelait la Santa Maria dans Ghost Recon Wildlands, il y aura trois nouveaux gangs à infiltrer dans des nouvelles missions et des nouveaux véhicules, entre autres le Monster Truck et des voitures de course, de la F1 et tout ça.
Ça va faire bang, tout ça.
Oui,
c'est l'idée. Tu voulais la sortir, je t'ai vu. Je l'ai vu dans ton regard.
J'imaginais des noms de gangs possibles, comme les Chiquito Gonzalez, des trucs comme ça.
Les Tacos Bolitos.
Les Speedy Cocaina.
Santa Maria, c'est comme une des caravelles de...
Oui, c'est vrai. Bon, on peut tout faire avec.
C'est bon pour
moi. Ok. Moi, je vais commencer avec Valve qui a retiré 173 jeux de Steam d'un studio qui s'appelle Silicon Echo. Alors pourquoi, me direz-vous?
Pourquoi ?
Voilà. Parce que c'est un studio en fait qui a publié plus de 80 jeux au cours du mois de juillet-août, et en fait tout ça c'était du pipeau, c'était pas des vrais jeux. En partie grâce au retour des utilisateurs, Valve a compris que tous ces jeux c'était ce qu'on appelle des faux jeux. Sur Steam, c'est possible grâce au... Alors avant ça s'appelait le Steam Greenlight, qui était une plateforme où on pouvait proposer ces jeux et à la communauté voter pour savoir si le jeu pouvait être amené à être vendu, et en fonction de ça Steam a accepté le mettre en publication sur ces plateformes. Et ben en fait eux en gros ce qu'ils faisaient c'est qu'ils prenaient un bout de source code d'un jeu existant, ils le trafiquaient, ils faisaient du pipeau avec, et en fait quand on l'ouvrait il n'y avait pas grand chose dedans, c'était que des faux jeux. Et c'était des jeux clonés à partir du moteur Unity. Et cette méthode, elle existe, elle est connue par Steam, puisque c'est pas la première fois. Ça s'appelle le asset flipping. Et c'était des jeux donc complètement pourris à la qualité médiocre.
Donc ils sont fait de l'argent là-dessus, on est d'accord.
Et ils sont fait de l'argent parce qu'en fait, quand t'achètes un jeu sur Steam, t'as les cartes à collectionner maintenant, ouais, que tu peux ensuite revendre. Et il y a un certain business derrière. Et tout ça, ça générait du pognon qui allait directement dans les poches de l'éditeur aussi. Il y a plusieurs éditeurs qui ont. Enfin, cet éditeur-là, en fait, avait plusieurs faux noms pour publier des jeux. Il y avait une dizaine d'éditeurs au total, donc si jamais vous avez acheté des jeux de Silicon Echo ou de Zonitron par exemple, qui sont les deux plus gros faunés qui existaient, et tout ça c'est du fake. Il n'y a pas de poursuite, il n'y a rien, hein, le seul résultat.
C'est pas illégal en fait.
C'est pas illégal,
c'est Steam
parce que
qui a mal vérifié son truc.
Alors non, parce que le pire dans tout ça, c'est là que je voulais en venir, c'est qu'il n'y a pas eu de poursuite, il n'y a rien eu, à moins que des joueurs, et encore les joueurs ne pourront rien poursuivre, voilà. Mais le seul résultat, c'est que Steam a demandé à tous les développeurs de bien respecter la politique de Valve et de faire attention à bien envoyer des vrais jeux. Dans le genre, je me dédouane totalement du bazar.
Et ils rigolent pas, Steam. Hein.
Ah, Steam, attention, ne faites pas ça.
Comme mesure, nous allons prendre. Ne faites pas ça.
Donc, du coup, si vous avez acheté les jeux, théoriquement, vous avez acheté.
Vous l'avez
caca.
Dedans.
Voilà. Exactement. Tu as une news également, Ben.
Tout à fait. Alors, c'était jeudi dernier, je crois. Il y a eu le trailer de nouveau Red Dead Redemption 2.
Ah oui. Ah,
c'est un magnifique trailer et tout. On sait tous que ça va être un jeu très bien. Bon niveau narration, niveau graphiquement. Bon, sur le système de jeu, on n'en sait pas trop, puisqu'on a surtout des très belles images. Hein. Donc, on suit un personnage qui s'appelle Arthur Morgan, qui sera peut-être le personnage principal ou pas, on ne sait pas. Et il fait partie d'une bande de marlous qui semble liée, ou qui semble être celle de John Derlin, qui était le leader de la bande de John Marston, le héros du premier opus. Donc voilà, on a du crocodile, on a de la bestiole avec des magnifiques rayons de soleil, de la neige, des bagarres et tout.
De la neige ?
Oui, de la neige. Dans le premier, il y avait un endroit où il neigeait.
Ah ouais.
Il y avait un kilomètre carré où il y avait de la neige.
Okay.
C'était un
microclimat.
Quand tu montais comme ça un peu dans l'odeur. Donc, tout ça au passage pour dire que ce n'est pas vraiment un coup de gueule, mais parce qu'on a l'habitude avec Rockstar, ils ont annoncé une annonce jeudi à 17h. Mmh. Annonce. Soyez tous là. Il y a 10 millions de personnes qui sont pointées. Ce n'était pas une annonce, c'était un nouveau trailer de 1 minute. Donc, on a vu des belles images, mais Rockstar sait que ce n'est pas la peine de communiquer plus que ça, puisque ça va se vendre. Donc on attend quand même avec impatience Red Dead Redemption 2, donc avec une date approximative qui a été donnée, printemps 2018,
oui, forcément.
Juste sur console pour l'instant.
Mais ça viendra sur PC évidemment, comme
je pense.
Jérém.
Oui, alors j'avais aussi Red Dead Redemption d'ailleurs, mais c'est pas grave.
C'est pas grave, voilà.
Du coup, non, là ça va être pour un jeu qui va sortir donc ce 13 octobre, donc avec mon magnifique accent anglais, The Evil Within.
The Evil Within.
Le 2, en l'occurrence. Ah, oui, donc qui a été dévoilé à l'E3, et il y a eu effectivement pas mal de trailers qui ont été balancés pendant la Gamescom. Concrètement, ça va pas être un énorme bond par rapport au premier.
Donc, le premier, c'était un très bon jeu d'horreur et c'est presque le retour d'un Resident Evil, mais en 100 fois plus gore. Et
c'est ça. Ça va rester en fait dans la même idée. Concrètement, va falloir opérer pareil que dans le premier, c'est-à-dire que va falloir. C'est pas de l'arcade, c'est vraiment de la simulation. Il faut viser la tête pour tuer plus vite. Il faut privilégier la discrétion pour éviter de prendre toute la map sur la tronche. Enfin, il y a tout ce genre de choses qui sont conservées. Et donc vraiment, c'est a priori, selon toutes les vidéos et les trailers qu'il y a eu, ça va vraiment envoyer du bois, clairement. Donc d'ici là, au 13 octobre, on espère avoir la chance d'avoir une clé pour tester et puis vous faire vivre ça d'ici 2 semaines.
Ok. Ben ? Tu as encore quelque chose à nous dire?
Ah oui, ah, si. Ah pardon, si. Décidément.
Tu as encore une petite info.
Après, on est tout tourneboulé par cette émission.
Ah bah oui.
Oui, effectivement, je vais vous parler de la bêta de COD de Call of Duty World War II, mais maintenant elle est fermée.
Ils n'ont pas de complément de vie aujourd'hui. Ah oui, c'était pour ça qu'ils ne voulaient pas le dire. D'accord, bon, on s'en fout.
Mais non, j'en ai une autre du coup, oui. Et en plus qui est totalement dans le thème.
Dis-moi.
La sortie sur Steam le 12 octobre en accès anticipé de Sociable Soccer. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de Sensible Soccer, c'est un jeu qui est sorti
oui.
En 80. Alors,
c'est
assez méconnu.
C'est sur une vieille console.
Sur PC et ou Commodore, je ne sais plus.
Non,
pas
c'était
si vieux.
Bien après, non.
Bah, c'était oui, 92, effectivement, c'est pas si vieux. C'était le rival de Kickoff à l'époque,
ouais,
je ne savais
football.
Pas. Voilà, le jeu de foot assez orienté arcade, développé par John Hare. Qui a raté sa campagne de financement Kickstarter pour donc cette suite de Sensible Soccer, mais finalement voilà le jeu va se faire, développé par le studio finlandais Combo Breaker. Donc un jeu de foot bien arcade quoi.
Ah oui bah oui, c'est plus arcade. C'est un peu comme Blood Bowl.
En même temps Combo Breaker ça fait
oui. Ouais.
Quand tu vois les extraits de jeu, voilà, c'est le tu vois le Tiki Taka de Barcelone, c'est vraiment le Tiki Taka quoi. C'est en train de voir un jeu de billard, tu sais. Et donc le principe du jeu, vous pouvez collecter des sous forme de cartes à jouer. D'ailleurs, ça va peut-être t'amener à y jouer, Jérémy, parce que apparemment c'est sous forme de cartes à jouer en mode un peu Panini que tu peux collecter jusqu'à 25 000 joueurs, dont 5 000 légendes, dont Lionel Messi, Roberto Baggio ou encore Hugo Lloris.
Ah oui.
Donc
c'est comme
c'est
le PES
en licence quoi.
C'est PES de l'époque.
Voilà, c'est ça. Il y a aucune les clubs, il y a toujours une lettre qui change. Donc tu peux aussi mettre en place ta tactique, t'as plus de 1000 équipes, 13 tournois, 21 coupes, 33 championnats avec un style très très arcade avec des ballons qui rebondissent dans tous les sens, c'est des tout petits joueurs et des vitesses de jeu Olivier Tom. Le slogan d'ailleurs c'est it's faster than fuck.
Ça vous promet quoi. Ça c'est un slogan.
C'est un slogan. Donc au moment de la surenchère technologique et des bases de données monumentales, ça fait un peu du bien aussi d'avoir ce genre de jeu.
C'est vrai, c'est un bon jeu qui faisait bien plaisir. Jérémy, une dernière news, on a encore un petit peu de temps.
Rapide du
ouais.
coup okay. Rapide non, c'était par rapport à la...
Rapide non, c'est pour 5
minutes. Vous avez connu l'ombre du Mordor, j'imagine,
oui,
la Terre du Milieu.
Oui, MMORPG de la Terre du Milieu.
Et donc là, il y a l'ombre de la guerre qui va sortir, qui a été officialisée en mars 2017. Donc il devrait sortir peut-être début d'année prochaine, on n'a pas encore vraiment de date. Donc c'est pareil dans la même veine, c'est Talion qui revient et qui est encore plus vénère. Et donc c'est pareil, c'est du RPG, on va dire. Il y a vraiment du gain d'expérience, il y a du compagnon. Vous pouvez recruter des orques, vous pouvez les avoir sous votre joue, on va dire, les promener avec vous et
joue de fruits ou
sous votre joue, J-O-U, voilà. Non,
sous votre joue, alors, donc, d'accord, dans la bouche quoi. Okay.
Sous votre joue.
Enfin, des orques dans la bouche. Okay. Moi, j'ai pas trop envie, mais bon.
Et donc voilà, Monolith a vraiment bien bossé cet opus aussi. Il y aura deux nouveaux modes de jeu qui s'appellent Nemesis et Vendetta. Conquête et Vendetta, autant pour moi. Et voilà, donc ça devrait sortir d'ici maintenant 4 ou 5 mois. Et donc niveau background, c'est toujours pareil, c'est du Tolkien, donc forcément
ouais.
c'est bossé, c'est super travaillé. Il y a pour les amateurs de Lord of the Rings, c'est vraiment le panard, quoi, clairement.
Et il y a une date?
Normalement, début d'année prochaine, il n'y a pas de date officielle, on va dire.
Bon, ça va être quand il y aura les grosses sorties, forcément.
Oui.
On va passer au coup de cœur et au coup de gueule de la rédaction.
Les coups de cœur et les coups de gueule.
Et on va commencer alors que Ben se racle la gorge. Moi, pardon. Je voulais parler la semaine dernière du coup de Ubisoft. Ça devait être mon coup de cœur ou gueule, tout dépend de quel côté on se place. Parce que Ubisoft avait eu une grosse stratégie anti-Bolloré. Finalement, Bolloré n'aura pas sa place. Il a sa place au capital. Il va augmenter sans doute son capital dans Ubisoft, mais les Bretons indépendants vont faire front. Et parce que Ubisoft, ça veut dire Union des Bretons indépendants, ils vont faire front et vont empêcher que Bolloré, ait de plus en plus de pouvoir. Et ça va être bien le seul petit peuple français qui arrivera à être contre Bolloré.
Petit peuple.
Oui, ben voilà. Mais bon, par rapport à Canal Plus qui s'est fait complètement racheter et que Bolloré a foutu en l'air tout ce qui pouvait exister de bien. Chez Canal+, Ubisoft ne sera pas spoilé. Ça devait être ça, mais entre-temps, il y a FIFA qui est sorti, FIFA 18, et il se trouve que FIFA 18, comme tout le monde, je l'ai précommandé en ligne, en day one, pour le télécharger et y jouer tout de suite. Et j'ai utilisé un site de vente de clés en ligne, totalement légal, puisqu'il y en a plein qui existent comme ça, qui s'appelle Instant Gaming, et il se trouve que tout le monde... tous les gens qui ont acheté un FIFA sur ces genres de sites de clés, CD Keys ou Instant Gaming ou d'autres, eh ben, n'ont pas eu le jeu en day one. Ils n'ont pas eu la veille. Normalement, on doit le recevoir la veille pour le télécharger. On l'a pas reçu la veille, on l'a pas reçu le jour même. On l'a reçu 18 heures après la sortie. Et le seul petit mot qu'on a eu, c'est un mot 14 heures après la sortie de sur Twitter de EA qui disait oui, il y a beaucoup de monde sur les serveurs, on l'aura plus tard. Voilà. Et apparemment, dans tous les jeux, tous les sites où on vend des clés comme ça, en sachant que les clés sont vendues par Origin à ces sites, donc du coup, c'est pas des clés frelatées ou quelque chose, c'est totalement légal. Et chaque année, FIFA nous fait le coup, les serveurs sont encombrés, machin et tout, et les jours de sortie, en général, il y a toujours des problèmes. Donc un gros coup de gueule, un gros carton rouge pour FIFA et pour les serveurs d'Electronic Arts, comme souvent.
Donc HTPES.
On en parlera tout à l'heure. Tu as, au lieu de dire des bêtises, est-ce que tu as un coup de cœur ou un coup de gueule ?
Ouais, alors moi j'ai reçu aussi quelque chose en précommande, mais moi c'est bien arrivé au moment prévu, c'est la Super NES Mini.
Ouais. Je connais pas le terme. On en a parlé beaucoup dans les autres émissions.
Bah, c'était attendu, surtout après l'année dernière, la sortie de la NES Mini. Alors pour rappel, ce sont des petits objets, des versions miniatures des consoles Nintendo, donc la NES 8 bits, là il y a une semaine la Super NES 16 bits. À l'intérieur une puce avec 21 jeux, les manettes plus ou moins d'origine, voilà, puis tu peux jouer, donc c'est comme un émulateur finalement, sauf que tu peux le brancher sur ta télé en HDMI. Ça c'est parce que voilà, si tu voulais jouer à ta vieille console, fallait avoir une cathodique, ouais. C'est pas forcément pratique. Donc voilà, elle est arrivée. C'est bien fichu, ils ont pensé à 2-3 trucs qui étaient pas top sur la NES, c'est-à-dire par exemple la longueur de câble de manette. Là t'as 1m60 de manette, ça reste encore un peu insuffisant, donc ça te rappelle vraiment tes jeunes années parce que tu joues assis par terre devant la télé. C'est juste ton canapé, il y a pas
acheter un pouf au pire.
Voilà, acheter des poufs. Je crois que les ventes de poufs ont augmenté de 10% depuis que la console est sortie. Et puis petit bémol aussi, il faut que tu appuies sur reset donc sur ta console pour revenir au jeu à l'écran d'accueil où t'as tes 21 jeux. Il y a Super Mario World, il y a Star Fox. Il y a Star Fox 2 aussi qui n'est jamais sorti sur Super NES, qui n'avait pas été fini de développer. Voilà. Là, ils l'ont sorti. Je vous dirai ce que j'en pense une fois que j'aurai joué. Mm-hmm. Et il y a Zelda 3, il y a Super Metroid, Donkey Kong Country, Super Street Fighter 2 Turbo, Mario Kart. Ils ont bien choisi leur ludothèque, vraiment des jeux qui font l'unanimité. L'image est bien, il y a un mode où tu peux mettre en version un peu comme sur tube cathodique, je sais plus comment ça s'appelle, pour que ça pique moins les yeux, parce que c'est vrai que ça pique un peu les yeux en HD. Mais t'as même les ralentissements qu'il y avait à l'origine. ça rame comme à
ça
des
rame
moments
en vrai.
Quand t'as trop de sprites et tout, ça rame. Ouais. Donc ils ont pas touché. C'est bien fichu, les manettes sont de bonne qualité et tu peux sauvegarder n'importe quand.
C'est surtout ça, parce qu'à l'époque on ne pouvait pas sauvegarder, évidemment. Jérém, rapidement.
Oui, alors moi c'est 50% cœur, 50% gueule. En fait, donc j'avais mis hier, mais donc ça reporte. Donc c'était vendredi, c'était l'anniversaire des 22 ans de la première PlayStation en France, donc de la PS1 ou la PSX. Et en fait, ça m'a surtout rappelé, donc en voyant ça, les durées de vie en fait des jeux de l'époque et la grosse déception dans notre ère actuelle quand on achète un jeu solo en général. La durée de vie, ouais, voilà, c'est du 10-15 heures grand maximum. À part voilà Skyrim ou les MMO. Ou dans ce cas-là, la durée de vie est limite infinie. Mais voilà, je voulais passer un petit coup de gueule par rapport à ça. Et donc, clairement, claquer 60€, voire plus, pour des jeux qui font du 10 heures de jeu et où il n'y a que du multi qui est intéressant, c'est vraiment la plupart du temps une blague. Et donc, rappelez-vous de Final Fantasy 7, 8, 9, de Suikoden, de Metal Gear Solid, de Tomb Raider et tout ça. Et c'était vraiment clairement le bon temps. Ça fait vraiment vieux con de dire ça. Mais
c'est vrai. C'est vrai, et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit toute la journée sur Game Trip, si vous allez voir GameTrip.net. On va, comme chaque semaine, la première musique qu'on passe dans l'émission chaque semaine, c'est une musique qui vient d'un vieux jeu, et cette fois, c'est pas FIFA, c'est pas Tony Hawk, et ben, c'est une musique de PES qu'on va passer. La meilleure soundtrack, c'était PES 2011, et dedans, il y avait cette musique, c'était Cousins de Vampire Weekend. C'était donc dans PES 2011, on va la réécouter parce que c'était une bonne soundtrack à l'époque.
You found a sweater on the ocean floor.
Vous écoutez BLE Radio partout en Lorraine sur bleradio.fr.
Et nous sommes de retour pour le test de FIFA 18, hein, du coup, puisque c'est le jeu qui vient de sortir et c'est notre émission est thématisée autour des jeux de foot PES versus FIFA, comme toutes les rentrées.
Et on est en maillot en plus.
Et on est en maillot. Tu as le maillot de Chelsea, Ben a le maillot de l'OM, et moi j'ai le maillot de qu'est-ce que j'ai ? Brésil, Marcelo.
Tout le monde va savoir que j'ai pas du tout le maillot de l'OM. En plus, t'as pris une photo de l'édition, donc on est complètement.
Bref, on va parler de FIFA 18, tout ça pour dire qu'on va parler de FIFA 18. Donc on y a joué forcément dès que le download a bien voulu se faire. Hein, CF, le coup de gueule de tout à l'heure. Donc quelques jours après la sortie de PES, toujours comme ça, il y a PES qui donne le ton un peu, et puis après il y a FIFA qui arrive, parce que FIFA c'est le vrai jeu qui est acheté en général. Du coup, cette édition 2018, elle est pas forcément plus, on va dire, plus révolutionnaire que l'édition FIFA 17, parce que l'édition FIFA 17 avait eu cette bonne idée de changer son moteur de jeu. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, la semaine dernière on en avait parlé justement, le moteur de jeu c'est maintenant le moteur Frostbite, qui est un moteur qui est fait d'habitude pour les jeux d'action et d'aventure.
Battlefield et tout ça.
Battlefield, ouais, entre autres, c'est gros. DICE qui l'a fait. Et en fait, c'est, on va dire que c'est FIFA devient un jeu d'aventure et d'action plus que d'un jeu de foot. Déjà dans comment fonctionne la physique du jeu, il y a beaucoup plus d'animation, c'est beaucoup plus réaliste. Après, au niveau du graphisme et de la qualité retranscrite, de la texture retranscrite, c'est beaucoup plus joli qu'avant, ça c'est clair. Mais pas de grosse évolution, puisque finalement on reste sur les bases de l'année dernière. Alors même dans les trailers de la démo, on sentait que c'était très... regardez les grosses coucougnettes qu'on a, tout le monde l'a bien vu, tout le monde le sait. Konami est plus dans la course depuis 10 ans, donc pas besoin de s'essouffler, on va pas montrer des masses de trucs supplémentaires.
Tu parles de l'animation des shorts, des genres, bah, genre de choses.
Ouais, les genres de nouveautés, c'est les shorts qui sont qui volent.
Ah, on est dans le noir, ça y est, il y a encore une coupure. Non, c'est bon.
C'est les gouttes de sueur, sur le front qu'on voit beaucoup plus. Il y a plein de petits. Alors pour le diable est dans les détails, donc pour quelqu'un qui adore ce genre de détails comme moi, je trouve ça hyper gratifiant d'avoir par exemple le générique de la Ligue 1 Conforama quand tu lances un match de Ligue 1. Vous le retrouverez facilement sur YouTube, je ne l'ai pas sous la main, mais c'est un générique très particulier qu'on entend dans tous les stades.
D'accord, ouais, ouais.
Et on l'entend lors des matchs, voilà, ce genre de petits détails. Alors, les grosses nouveautés cette année, c'est ça qu'ils ont teasé vachement là-dessus, alors qu'on entend la musique du trailer, c'était sur les animations maintenant même lorsque tu es en mode carrière. Alors, on a beaucoup axé le jeu sur le mode carrière, donc le mode carrière, c'est un mode à part dans le jeu qui permet de prendre le contrôle soit d'un manager sportif, soit d'un joueur débutant.
Qui est quasiment Kylian Mbappé dans l'idée.
Non, ça c'est le jeu, ça c'est le mode histoire qui est encore un
autre
mode.
Ah oui, oui, d'accord. Oui,
le mode le mode carrière, on va dire, c'est soit tu prends un joueur qui n'existe pas, tu fais ton propre joueur, bon, voilà, tu t'appelles Jérémy machin, tu fais ta gueule tout ça et puis après tu gravis les échelons, tu signes d'un club à un autre, tu joues, tu progresses, il y a un côté RPG où tu gagnes des points. Et les points, après, tu les orientes soit en physique, soit en force, soit en course.
Il n'y a pas d'intrigue, contrairement au mode histoire, non. Où il y a une vraie histoire.
Alors, le mode carrière, par contre, il n'y a pas d'intrigue et tout ça. Mais par contre, ce qui est cool, c'est que maintenant, dans le genre de petits détails un peu bêtes qu'ils ont rajoutés, c'est que quand tu négocies des contrats, quand tu es en mode manager, donc que tu joues avec un manager sportif et que tu gères ton équipe au complet, tu négocies les contrats directement avec les agents des joueurs. Donc tu vas vraiment, il y a toute une animation où tu es sur un canapé, il y a le mec qui arrive, on discute, on gère combien il va gagner, combien il doit toucher, combien d'années il veut. Non, moi je veux pas tant d'années, je préfère 3 ans. OK. Après on met une clause de... Alors là il y a eu Neymar, ça on a tout le monde a découvert la fameuse clause de je sais plus comment ça s'appelle, mais le truc qui fait que si tu payes cash 222 millions d'euros, tu as le droit de le récupérer peu importe le contrat qu'il avait à l'époque.
Ah oui.
Ce genre de c'est une clause de
libératoire.
Voilà. Ouais. Donc ça, ils l'ont intégré dans le jeu. Tu sens que c'était le truc dont tout le monde a parlé cette année, donc ils l'ont intégré dans le jeu.
Mais parce que ça, à la base, c'est que autorisé en Espagne, en fait. C'est pas autorisé chez nous.
Ah ben là, tu peux l'utiliser. D'accord. Dans si tu fais signer quelqu'un, tu peux lui soumettre une clause libératoire, définir le truc, et puis après tu discutes donc avec son agent, avec le joueur, est-ce que c'est assez, est-ce que c'est pas assez, l'autre il peut s'énerver, partir en disant non, c'est intolérable d'être traité comme ça. Donc il y a tout un aspect RPG avec le moteur Frostbite, qui fait que le jeu devient un peu RPG. Et à côté, donc, il y a le mode Alex Hunter qui revient, le mode histoire, où là, on joue un... À l'époque, c'était l'ersatz d'Anthony Martial. Maintenant, ce serait plus un Kylian Mbappé dans l'histoire. Tu joues un jeune black dans une banlieue anglaise qui a signé dans un club de première ligue. Et puis t'as une vraie histoire là qui se déroule, donc c'est entrecoupé par des grandes cutscenes vachement bien foutues quand même, où tu le vois avec sa famille, avec ses parents, avec ses potes. Il y a tout un des problèmes de sponsors, des problèmes de transfert, des médias qui disent des trucs sur lui, il faut qu'il gère un peu ça. Et il y a tout un aspect RPG où tu peux choisir d'être soit modeste, soit arrogant, et ça influence après la suite de l'histoire. Pas beaucoup, mais on va dire que ça influence comment les gens te perçoivent, comment ton coach te perçoit, est-ce qu'il te fait plus jouer ou pas, est-ce que t'as plus de fans sur Twitter, et si t'as plus de fans, t'es plus reconnu, et du coup tu gagnes plus de pognon. C'est vraiment assez. Il manque vraiment plus que la coke et les prostituées pour que l'histoire soit vraiment complète.
Et en VR, du coup, ça sera sympa, quoi.
Voilà. Pour ce point-là, oui.
pour les prostituées, tu veux dire, c'est ça?
Oui,
oui. D'accord. Oui, pas pour les négociations.
Pas pour les potes de la banlieue londonienne.
Non. Alors après, ce qui est nouveau, bon, comme chaque année, il y a 2-3 stades en plus. C'est pas spécialement ce qui nous intéresse le plus. Les transferts, évidemment, les transferts sont quasiment tous à jour. Ils sont connectés au serveur EA, donc quand ils marchent, les transferts sont vraiment à jour, à la minute près, avec les équipes, même les blessés des équipes sont à jour. Il y a toutes les licences, je ne sais plus combien, il y a une trentaine de ligues. Ils ont ajouté cette année la 3e Bundesliga, qui pour moi c'était pas l'essentiel à rajouter. Donc en France, tu as la Ligue 1, la Ligue 2, en Allemagne, tu as les 3 ligues, en Angleterre, tu as 4 ligues, en Italie, tu as les 2 ligues, la Serie A, la Serie B. Voilà, donc les gros championnats, on va dire, ont au moins leur ligue, voire leurs deux premières ligues. Pour le reste, ce qui est dans la nouveauté, c'est du FIFA, c'est du e-sport, donc c'est de l'hollywoodien. On joue pas sur la technique, tout ça, on joue sur l'impression au final, quand tu joues. Les stats sont beaucoup plus grands, tu sens vachement le 13e homme qui est là, puisque t'as...
13e ?
Le 12e.
12e.
Parce que t'as...
Parti, il y a l'arbitre avec.
Oui, mais... bah, l'arbitre, je le considère. Non, parce que t'as vraiment le public qui te soutient. Après, t'as des nouvelles animations, quand tu marques des buts, tu peux vraiment aller dans le public, et t'as le public qui arrive, qui te prend dans tes bras, et qui te soulève, machin. Et puis t'as des plans, t'as des cutscenes pendant la mi-temps, où tu vois du public. Le public est animé quasiment autant, avec le moteur Frostbite, que les joueurs. Donc ils ont essayé de retransmettre
une tâche, un peu. Ça voilà. Fait longtemps.
Ouais, moi, ça fait longtemps. Mais ouais. Encore l'année dernière, c'était vraiment des aplats. C'était des bouts de carton dans les tribunes.
D'accord.
Là maintenant, c'était plein de joueurs dans
les
tribunes.
C'est balèze, hein. Ouais.
Et pourtant, le jeu n'est pas techniquement ne pompe pas non plus plus qu'avant. C'est vraiment, on est vraiment large sur le truc. Donc voilà, j'ai dit le retour d'Alex Hunter qui rajoute vraiment. C'est le truc qui rajoute le plus. J'ai pas eu le temps d'y jouer assez pour savoir comment ça se déroule dans l'histoire. Mais dans le casting, c'est sympa. Il y a Griezmann qui est là, il y a Ronaldo, Thierry Henry. Il y a plusieurs joueurs qui ont prêté leur voix et leur visage pour apparaître dans l'histoire. Toujours, donc, la licence, c'est le truc le plus important. Et puis, globalement, comme d'habitude, il est au-dessus dans à peu près tout. Hein. Les joueurs bougent bien. L'IA, comme d'habitude, elle est pas ouf, mais ça suffit pour faire des bons matchs. Et puis bah, la maîtrise du moteur Frostbite qui fait que le jeu est super joli. Et voilà les trucs à la con, comme je t'ai dit tout à l'heure, la musique de la Ligue 1, les commentaires avec les petites anecdotes. Ah, ce joueur-là.
C'est qui aux commentaires d'ailleurs ?
Commentaires comme chaque année depuis 2 ans du coup maintenant, c'est Hervé Matou et Pierre Ménès du Canal Football Club.
D'accord.
Ce qui rajoute aussi, côté français, un truc un peu rigolo avec le Pierre Ménès qui, dans le principe, est juste là pour péter les joueurs. Soit pour péter les joueurs, soit pour raconter des conneries sur le truc. Mais tu vois, genre petit détail, par exemple, hier, je jouais à FIFA hier, et hier, c'était l'anniversaire d'un joueur de Ligue 1 à Paris ou à Lyon, je sais plus qui. Et il a dit, ah, c'est son anniversaire aujourd'hui, bon anniversaire.
Ah, c'est marrant.
Ah, c'est genre bien. De truc, comme c'est connecté au serveur EA et tout ça. Bah,
ah, l'immersion, coup, c'est super important.
Voilà, donc c'est un genre de truc qui, voilà, il y a une enveloppe très FIFA, et l'enveloppe FIFA, c'est du grand spectacle. C'est pas forcément toujours le meilleur en termes techniques, mais c'est du grand spectacle, et rien que pour ça, c'est quand même. Super bien, et on verra tout à l'heure si c'est meilleur que PES.
Ah, c'est cool qu'ils aient pris des choses à d'autres styles de jeu, parce que les simulations sportives c'était quand même pas mal dans leur bulle et n'empruntaient
pas. Et ben on arrive à une évolution où
les routes se croisent.
Non, ouais, où le jeu de foot
c'est beau.
Tel qu'on le connaît n'existera peut-être plus. Et LFP Manager le faisait à l'époque. LFP Manager c'était un jeu qui était très RPG en plus d'être un jeu de foot. Et finalement ça a été abandonné, mais c'était eSports qui le faisait aussi. Et maintenant, j'ai l'impression que FIFA, c'est un mélange entre le FIFA et le LFP Manager, qui sont deux licences liées.
C'est un labo pour eux, quoi.
Et ben, c'était deux licences qui maintenant se rejoignent, et moi, je trouve ça plutôt agréable. Voilà.
Disons qu'après, tant que tu peux te poser avec un pote et puis faire juste un match en versus, ça, sans avoir du blabla et tout autour,
oui,
ça va.
Bah,
ça, tu peux toujours le faire, évidemment.
C'est quand même le nerf de la guerre, hein, je pense.
L'histoire au coin du feu de Benjamin.
Benjamin, chaque semaine à cette même heure, Ben va nous parler de ses aventures et péripéties imaginaires qui lui arrivent lorsqu'il joue. Et aujourd'hui, c'est une spéciale de football, hein, donc on va parler non pas de FIFA, ni de PES, mais bien du meilleur jeu de foot au monde,
c'est Football Manager.
Évidemment.
Un jeu fou, qui rend fou aussi, c'est un peu ce que je vais vous raconter aujourd'hui, puisque ce ne sera pas mes propres péripéties vidéoludiques sur Football Manager. Moi, j'ai joué à la vieille version, qui était un jeu qui était édité par Sierra dans la fin des années 90, développé par Immersive, je crois. Impression Games. Mm. Voilà, c'est un jeu de gestion d'équipe de foot, pour ceux qui ne connaissent pas. T'as une base de données assez énorme. Alors depuis 98, ça a bien augmenté. Tu gères ton équipe. C'est super moche. C'est très ingrat.
Tableaux Excel.
C'est des tableaux Excel avec des stats. Il y en a énormément aujourd'hui. Les joueurs sont vraiment notés. Voilà, tu peux accéder à plein de championnats dans le monde entier. Bon, on va vous présenter je vais vous présenter d'abord la licence telle qu'elle existe aujourd'hui. C'est une base de données de 650 000 joueurs, Football Manager, mise à jour par 1500 bénévoles dans une trentaine de championnats. C'est-à-dire qu'il y a des vrais mecs, il y a des scouts, comme pour les vraies équipes pro, qui vont dans les championnats, qui notent les joueurs, etc., etc. Et ça en est venu à ce que les clubs pro eux-mêmes utilisent la base de données du jeu pour rechercher un peu des joueurs. Alors, ils ne recrutent pas que à partir de ça, mais ça leur file un peu une idée pour aller en 3e division brésilienne choper un jeune prometteur. Surtout qu'en 2014, Sports Interactive, le développeur de Football Manager, a passé un partenariat avec Prozone, qui est une entreprise spécialisée dans les statistiques et l'analyse de la performance. Et donc, Prozone a acquis cette base de données. Everton a signé pour consulter cette base. On sait que Nice et Sochaux l'utilisent. Et que Gomis, il a joué un mois. Baffet Amy Gomis a joué un mois avec Swansea pour apprendre à connaître ses coéquipiers. C'est rigolo. Il y a toute une série d'anecdotes comme ça. Les mieux, c'est quand même sur les joueurs parce que. Ils sont assez fous, surtout outre-Manche, où le jeu est un énorme carton. On a un monsieur, il s'appelle John Boileau, qui est un Britannique de 25 ans, à l'époque des faits. En 2006, monsieur, il envoie son CV au club de Middlesbrough, qui vient de subir le départ de son entraîneur, et il envoie un CV entièrement basé sur le jeu. Le mec raconte qu'il est quand même parvenu à attirer Zinedine Zidane, Raoul, Totti, Roberto Carlos et Philippe Mexès à Rochdale and Diamonds FC, qui est un petit club de Ligue 2 qui est sûrement cher au cœur du monsieur. Quatrième division anglaise. Et Steve Gibson, le président de Middlesbrough, a répondu « Après de nombreuses discussions, nous avons décidé de ne pas retenir votre candidature. Nous pensons que notre collaboration aurait été de trop courte durée, puisque votre immense talent aurait attiré les plus gros clubs européens. Mais nous considérons que le fait que quelqu'un comme vous pense à nous est un signe de notre progression. » Progression, voilà. Il y a un mec qui s'en est pris à son attaquant dans la vraie vie parce qu'il l'a quitté pour la Juve. Ça c'est génial. Il est allé voir au restaurant, il lui a fait dis donc, t'es parti pour un club plus glamour, c'est tout. Bon, il a dit qu'il était dans un état d'ébriété plutôt avancé.
Et le mec, ça n'empêche pas.
Parce que il joue avec Sheffield, le monsieur, et James Beattie, le mot question, il avait marqué plein de buts et il est parti pour la Juve à la fin de la saison. T'es vénère. J'ai combien de temps? J'en ai quelques-unes encore.
Une minute.
Il y en a plein. Il célèbre un titre aussi, monsieur qui célèbre un titre, en faisant le tour de la ville en bus. C'est-à-dire que le mec gagne la Ligue Europa avec les Bliss Spartans, un tout petit club du nord-est de l'Angleterre, et ils ont gagné 3-0 contre Valence en Coupe de l'UEFA, finale. Et le mec a acheté un trophée. Il est monté dans un bus à étage, là, qui faisait le tour de Newcastle. et le truc qui est terrible, qui est génial aussi, qui me fait rire, c'est qu'il a dit « J'ai pris mon PC pour que mes joueurs en profitent aussi. »
Oui, bah oui.
Complètement fou. Et voilà. Et du coup, le mec a aujourd'hui un one-man show, Football Manager Ruined My Life, où il raconte tout ça. Et toutes ces anecdotes sont issues d'un livre qui s'appelle Football Manager Stole My Life par Ian McIntosh, Kenny Miller, Ney White. Voilà, les messieurs. Il y a un mec qui a mis le feu à sa poubelle pour imiter les lampions que les supporters de Galatasaray mettent chez eux. Il y a un mec qui est parti à l'autre bout de l'Europe pour rencontrer son joueur fétiche. Le mec lui a dit tu es fou. Il lui a dit voilà.
Mais c'est normal, c'est ce qu'il fallait lui dire.
C'est assez drôle. Hein.
Et il y en a une que tu n'avais pas, que je t'avais sortie la semaine dernière.
Ouais.
Je ne sais plus c'est quoi du coup.
Voilà.
C'était un joueur qui avait. Un gars qui avait vraiment été recruté parce que sur son CV il avait mis qu'il jouait à Football Manager et qu'il avait remporté la Ligue des Champions ou je sais plus quoi, et il a vraiment été, pour le coup t'as donné un exemple où ça n'a pas marché, ben moi j'ai un exemple où ça avait marché, mais ça se passe en Angleterre évidemment. Ça passe toujours en Angleterre.
Il y a aussi le fils de l'entraîneur de Glasgow Rangers qui avait repéré Lionel Messi, qui en a parlé à son père, et son père lui a fait bah, avec ton jeu vidéo à la con, là, remonte dans ta chambre.
C'est ce qui est exactement.
Depuis, il s'est suicidé.
C'est exactement ce qu'on a dit à Jane à l'époque où elle a sorti ce titre, Dynabit.
Oh!
Partout en Lorraine sur bleradio.fr.
BLE Radio.
Et on revient sur Game Trip FM pour la partie oldies désormais. On va parler des actualités, si tant est si bien qu'on puisse le dire comme ça, qu'il y a eu dans les oldies. Dans les oldies, évidemment.
Les oldies.
Dans les eaux profondes, des oldies. Et je vais commencer avec les 20 ans de Resident Evil 2. On vous l'avait annoncé déjà il y a quelques temps. C'est les 20 ans, saga. Enfin, du deuxième épisode.
Pas tous les jours, 20 ans.
Merci pour ce petit brin de voix. Juste un petit mot pour vous dire qu'il y a une campagne Kickstarter qui est dédiée au jeu de plateau de Resident Evil 2. Il y a quelqu'un qui va faire un jeu de plateau. Le projet est très réussi puisqu'à l'époque où j'ai vu ça, donc c'était samedi dernier, il restait 23 jours et on était déjà à 450 000 livres sur les 150 000 demandés.
Oui.
Ce qui fait que, à mon avis, on doit déjà avoir dépassé les 500 000 là aujourd'hui. Ça débloque donc plusieurs paliers, hein, comme ça marche sur Kickstarter. Donc on aura plein de petits bonhommes en plus. En fait, ça, les paliers débloquent des petits personnages en plus. Donc c'est prévu pour septembre 2018, donc c'est un jeu de plateau avec des cartes aussi, tiens ça va t'intéresser.
C'est dans la ville.
Dès qu'on va parler des cartes,
gamme, quoi, tout de suite.
Qui adore les cartes.
Et bah du coup c'est un jeu de plateau bien sympathique. De ce que j'ai vu, ça se joue un peu avec des cases hexagonales, un peu comme un Donjons et Dragons, avec des jeux de
tuiles.
Cartes. Oui, des tuiles, voilà, avec des tiles, avec des jeux de cartes où t'as des armes, des bonus, tout ça. Et puis pour l'instant les pions, c'est Claire Redfield et Léon Kennedy. Il y a des zombies, il y a des cartes. C'est vraiment dans l'esprit du Resident Evil puisque t'as des cartes, par exemple, avec les herbes vertes. Vous vous rappelez les herbes vertes?
Oui.
Les petites munitions.
T'imaginais le mec avec son pot au milieu
en train
d'écraser
voilà.
Les herbes.
Eh ben, il y a ça dans les trucs. Voilà. Donc ça sortira théoriquement, cool. Si tout se passe bien, en septembre 2018. Un petit mot sur la Atari Box. Regarde, je vous montre la photo de l'Atari Box. Ça ressemble à un gros modem noir,
ouais.
Avec le gros logo Atari qui clignote dessus. C'est la future console d'Atari. Globalement, ce sera une architecture de type PC avec un Linux dedans. Ce sera prévu pour le printemps 2018. Ça oscillera entre console rétro gaming et Media Center, on va dire. Les rumeurs disent qu'il y aura même des nouveaux titres Atari dedans qui seront intégrés. Les classiques d'Atari seront préinstallés sur la console. Certains disent qu'il y aura peut-être même une intégration avec Steam, un peu comme les Steam Box qui étaient les PC sur l'architecture Steam. Et au niveau matériel, c'est pas dégueu, puisqu'il y aura une puce AMD dedans, de la technologie Radeon pour le moteur graphique, donc tout ça c'est du bon. streaming, internet, applications, réseaux sociaux, musique. Donc voilà, c'est vraiment typiquement un media center. Je vais vous dire la même chose que je dis d'habitude. Mon conseil, c'est de faire comme j'ai fait moi, c'est-à-dire d'acheter un Raspberry Pi 3 qui coûte 50 balles, une dalle LCD qui doit coûter à peu près pareil. Vous mettez votre Magnetic Box dessus, vous mettez un RetroPie ou un Recalbox, et après vous avez environ 64 000 jeux à disposition sur un émulateur qui vous aura coûté 100 balles en récup. Voilà. Tout ça pour dire que...
Et donc ne l'achetez pas.
Non, mais tout ça pour dire, vous pouvez l'acheter si vous voulez un bel objet, comme d'habitude.
Mais les gens, ils sont
comme envie... la SNES, voilà, comme la SNES Mini ou la NES Mini.
D'avoir tout de suite
après,
le truc
si vous
de
voulez
brancher
vraiment,
que ça marche.
Si vous voulez vraiment juste jouer et que vous avez un petit peu de compétence...
Déjà, une dalle LCD, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce qu'on peut marcher dessus?
Bah oui, mais ça casse.
Attends, voilà.
Du coup, c'est juste le problème. Ensuite, autre petit, petite news oldies sur le TGS 2017, c'était il n'y a pas longtemps, maintenant c'est terminé, le Tokyo Game Show. On a eu des informations sur Shin Megami Tensei HD Project.
À tes souhaits.
Voilà, ça sortira le 23 octobre, c'est le mystérieux nouveau titre annoncé sur la Switch par Atlus. Alors pour les noobs comme vous, Shin Megami Tensei, c'est un jeu de rôle d'Atlus qui est sorti en 92, qui est sorti en 92 sur Mega CD, Super Nintendo, Best Engine, enfin sur tout un peu ce qui existait à l'époque. C'est la suite de Megami Tensei et c'est inspiré des livres de science-fiction Digital Devil Story Megami Tensei.
Waouh.
Et en fait, non, c'est marrant, c'est que c'est un RPG first person où ça se passait à Tokyo. Il y avait un jeune lycéen qui était dans une ville remplie de démons invoqués par un fou furieux. Et les USA envoyaient l'armée et toi tu te battais avec des fois des démons, avec des zombies, avec des armées. Voilà, c'était un jeu de rôle.
Une taille tentacule.
Et non, il n'y avait pas de tentacule, malheureusement. Yeah. Et un dernier mot sur la Commodore 64, on en a un petit peu parlé la semaine dernière. La Commodore 64 est de retour après la SNES, la NES, on en a parlé tout à l'heure, l'Atari 7600 dont on avait parlé il y a quelques émissions. Et ben ça sentait que les autres éditeurs allaient faire un peu pareil. Hein. Et du coup, c'est là. C64 qui va revenir en version mini, accompagné de 60 jeux. Globalement, ça ressemble à un gros clavier avec un joystick, donc comme la C64 à l'époque. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est une console de 82. Comme toutes les consoles récentes qu'on a remis au goût du jour, il y a une version HD dedans, il y a un port HDMI, il y a des ports USB pour brancher ces joysticks. Et dedans, comme d'hab, il y aura les jeux emblématiques de l'époque, il y aura Paradroid, il y aura Impossible Mission. Il y en a quelques-uns qui sont très connus qui ne seront pas dedans, comme Lode Runner ou Jumpman. Et c'est Koch Media qui édite, c'est un éditeur assez connu. Non, c'est vrai? Vous connaissez pas Koch Media?
Je le regarde, il rit alors.
C'est un éditeur allemand qui est vachement connu et qui fait beaucoup de choses dans le monde des jeux vidéo. Et pour 80€, ce sera pour 80€ début 2018 en France. Et c'est un vrai ordinateur puisqu'on pourra brancher un clavier dessus et coder en basique comme à l'époque. Donc voilà, si vous savez coder, vous pourrez en plus coder vos propres jeux. Bon, ça devrait pas être non plus la folie. Parce que quand même, il faut savoir coder en basique, comme c'est un truc qui est plus utilisé depuis les années 80.
Oui, bah c'est pour les mecs qui utilisaient déjà.
Ah bah pour ceux qui, oui, voilà, c'est pour ceux qui faisaient ça et qui kiffaient déjà le faire à l'époque.
Ils visent pas les mecs de 18 ans qui se disent « Eh, si j'achetais un Commodore 64 ».
À la place de jouer à FIFA, on en parlera tout à l'heure. On va passer très rapidement à la musique de la semaine, comme chaque semaine, à 12h10. Donc 21h40, mais il est 45, c'est pas grave. On va parler d'une musique et on va vous faire découvrir un petit peu des anecdotes autour de ces musiques. Et cette semaine, je vais vous parler de mon éditeur préféré, de ma période préférée, de mon support préféré et en fait de mon jeu préféré de tous les temps.
Ah ouais, carrément. Allez.
Non, c'est Monkey Island. Le point and click de LucasArts sur PC en 1990 et tout le monde hoche la tête dans le studio parce que tout le monde connaît cette musique. Cette musique, c'est la musique du Scum Bar. C'est là où vous rencontrez pour la première fois les pirates. Alors, faut bien se replacer dans le contexte. Hein. À l'époque, les musiques sont en 8 bits. Hein, d'accord. Pour la plupart, elles sont composées avec les bips du processeur.
Ah, c'est super bien fait, là. On profite encore un peu.
Alors, le thème de Maniac Mansion, c'est le premier jeu Scum qui est sorti 2 ans plus tôt. C'était avec les bips de l'ordinateur. Donc ça faisait tout, 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 tout. Et t'avais vraiment ton ordinateur qui bipait.
Ah ouais.
C'était vraiment la musique, même 4 bits, je pense. Donc ça, c'était le premier de l'environnement Scum. Alors Scum, c'est le moteur de jeu graphique textuel de LucasArts qu'ils ont inventé à l'époque pour Maniac Mansion. Ils l'ont réutilisé pour Day of the Tentacle, ils l'ont réutilisé pour Monkey Island, pour Doom, pour Sam & Max, les premiers Indiana Jones, toute l'épopée LucasArts point and click. Et les mecs ont construit plusieurs outils technologiques, donc ils ont construit Scum, mais ils ont aussi construit iMuse. Alors iMuse, c'est quoi? iMuse, ça veut dire Interactive Music Streaming Engine. C'est un système de synchronisation audio qui a été construit par Michael Land en 1991 pour Monkey Island 2. Et c'est, en fait, le principe de ce truc-là, c'est que ça permet de synchroniser le son qu'on entend avec ce qui se passait dans le jeu. Alors, il faut se remettre dans le contexte, on est quand même en début des années 90. Synchroniser l'audio avec les événements du jeu, c'est quelque chose qui se fait nulle part pour l'instant. Ça paraît con aujourd'hui de le dire, hein, mais à l'époque, il y a 10 fichiers MIDI sur la disquette. Ça tourne en boucle et ça change en fonction du moment où tu changes de tableau et tu rafraîchis le truc, quoi. Avec iMuse, en fait, là par exemple, ce qu'on entend, c'est Woodtick. C'est une période où vous êtes à Woodtick, qui est un endroit sur une île au milieu de la jungle. Et à chaque fois que vous rentrez vous pouvez visiter plusieurs bâtiments. Et à chaque fois que vous entrez dans un bâtiment, ce thème-là se modifie légèrement. C'est toujours le même thème, mais il est légèrement modifié pour s'adapter à ce que vous voyez à l'écran. Et en temps réel, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de chargement, il n'y a pas de... Voilà. Le moment le plus marquant, c'était ce truc-là, mais ça existait pour plein d'autres musiques. Et ça a été après intégré au moteur du jeu, et du coup, après, on l'a réutilisé dans tous les jeux suivants. Et le truc aussi qui a été inventé par cette personne, donc, c'est que à chaque fois qu'une chanson se terminait et qu'une autre arrivait, il y avait un espèce d'automix qui était généré par le processeur et qui se faisait en fonction de la musique qui arrivait derrière. Donc tout ça, c'était généré automatiquement, c'était pas programmé dans le jeu, c'était programmé par iMuse, du coup. Et donc on va citer aussi le deuxième compositeur qui a créé ça, c'est Peter McConnell. Et puis tant qu'à parler de génie, voilà, ce que vous avez entendu tout à l'heure, c'était le Scumbar. Voilà, tout ça, c'était fait avec du 8 bits à l'époque et avec pas grand chose, puisqu'on avait rien à l'époque.
Mais d'ailleurs, quand ils ont refait, parce qu'ils ont fait, ils ont réédité donc Monkey Island 1 et 2,
ouais.
Ils ont changé parce que, enfin,
ils ont tout réédité.
Oui, ouais, ils ont tout refait la musique aussi parce que la musique est vraie. Audible et plaisante.
La musique était déjà très bien, c'était inspiré de sonorités d'influence reggae, parce que c'est dans les Caraïbes, donc c'est un peu influence reggae.
Là, ce qu'on entend, c'est l'original.
Celle-là, c'est l'original.
C'est super bien fait, quoi. Enfin, on sent que.
Celle-là, c'est Monkey Island 2, version 2009, donc la version remake.
Ah oui, d'accord. Ouais. D'accord.
Mais attends, on va repasser la musique de Scumbar. Voilà, celle-là, c'est l'original.
Ça, c'est l'original. Quand même, ouais.
Les trois premiers pirates qui donnent les premières missions, c'est ça.
C'est ça, quand tu arrives dans le premier bar où tu rencontres les pirates et tu vas devenir un vrai pirate émérite.
Ouais.
Et donc, après iMuse, Michael Land, donc le premier compositeur, il est revenu à la composition pour plein de jeux LucasArts. Il est même revenu sur Tales of Monkey Island, qui est la saga remake en HD de Telltale en 2009. Et la musique est tellement rentrée dans la culture populaire que cette musique, elle se retrouve même dans le lobby d'entrée d'une attraction au Magic Kingdom à Disney. Et ce qui est marrant, c'est marrant parce que en fait, le jeu Monkey Island a été conçu et inventé avec comme inspiration Pirates des Caraïbes, attraction Disney à l'époque.
Oui, d'accord. Voilà, ouais.
La boucle qui se referme.
La boucle est bouclée.
Eh bien, on s'endormira moins bête.
Et oui, bah comme chaque semaine. Et on s'endormira moins bête et avec de la bonne musique, puisqu'on va écouter No Roots de Alice Merton, et puis on revient tout de suite après pour parler donc du duel de l'année, le gros duel de l'année, et qui n'est pas Trump contre Obama, mais qui est PES contre FIFA. I like digging holes and hiding things inside them. When I grow old, I hope I won't forget to find them. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I build a home and wait for someone to tear it down. Then pack it up in boxes, head for the next town. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I'll say a different land, but I've got memories and travel like gypsies.
Radio de proximité.
Il est 21h53 sur BL Radio et on est de retour pour Game Trip FM et la dernière partie. On va parler de notre sortie de la semaine FIFA 18 et on va faire le débat entre FIFA, PES, comme chaque année, le gros débat qui est le meilleur entre PES et FIFA. Rapide petit historique d'abord. PES, c'est avant tout ISS Pro Evolution. Ça date de 95, c'était sorti sous le nom de Winning Eleven au Japon. Et après, c'est arrivé chez nous. PES 5 est devenu le bien culturel le plus vendu en 2006 en France avec 1,3 million d'unités. PES 6 a fait mieux en 2007, 1,4 million d'unités. Et ça reste encore aujourd'hui celui qui est le plus joué car il est super modé, ce PES 6. FIFA a commencé avec 93 par contre, un peu plus tôt. Chaque année depuis 2013, il se vend entre 1 et 2 millions d'exemplaires à chaque fois. Et le record pour l'instant, c'est 4 millions d'exemplaires en 2013, donc largement au-dessus du PES 6. Alors pour vous, PES ou FIFA, on va commencer avec Jérém.
On parle de celui de cette année ou de, en général?
Bah, en général, après celui de cette année, est-ce que tu as joué aux deux? Moi, j'en ai joué qu'à un seul pour l'instant.
Non, j'ai pas joué aux deux. Après, j'ai eu un petit peu des échos. Oui. Je me suis un petit peu renseigné. Mais alors surtout après, si on parle pour toute l'historique des deux, moi j'ai plus joué forcément à l'époque en 95, tout ça. Je jouais à PES avec Zidane et Roberto Kirlos et tout ça. Enfin, c'est compris. Et ça nous faisait marrer et tout ça. Donc au final, c'est vrai que pour faire un match contre un pote, c'était pas bien important d'avoir les licences ou non. Mais après, comme un peu tout le monde, j'ai switché sur FIFA, je pense, effet de mode ou marketing ou média.
C'est marrant.
C'est
marrant parce que tout le monde a switché plus ou moins à la même époque.
Par contre, j'arrivais pas à switcher de bouton en fait. Pour moi, le R1 c'était toujours la passe en profondeur et
d'ailleurs,
c'était un drame pour
FIFA. Après, a intégré maintenant quand tu joues à un FIFA depuis 4-5 éditions, tu peux choisir la version, ce qu'ils appellent alternatif.
C'est la
version PES.
D'accord.
Voilà. Okay. Tu peux reconfigurer ta.
Bah, oui, en fait, moi je le faisais parce que moi j'avais toujours joué à PES avant et mes potes étaient amateurs de FIFA plutôt. Et moi, quand on commençait un tournoi, à chaque fois je re-switchais mes contrôles de manette.
Carré pour le tir et rond pour le centre et non pas l'inverse.
Ouais, voilà, c'est ça. Genre. Et c'est. Mais effectivement, j'ai plus joué à FIFA, mais je pense que c'était un peu l'air du temps. Et là, tout de suite, maintenant, alors de ce que j'ai vu par rapport à FIFA 18. Déjà, niveau purement graphique, effectivement, niveau des animations, des joueurs et tout ça, FIFA est clairement au-dessus. Mais moi, ce que j'ai remarqué, j'ai un petit peu vu des vidéos là-dessus, c'est que on s'arrête sur les visages, parce que effectivement, les célébrations, les visages, c'est important. Et niveau purement des visages, j'ai vu pas mal de comparatifs. Et clairement, le visage est beaucoup plus joli, beaucoup plus fin et beaucoup plus proche de la réalité sur PES.
Alors, c'est sur certains joueurs.
Ouais, alors je crois qu'en l'occurrence, il y avait genre Griezmann, il y avait peut-être Neymar, il y avait Cristiano Ronaldo. Et enfin, je veux dire, c'est quand même des joueurs, enfin mythiques, oui, clairement. Et c'est vrai que les louper, c'est quand même, enfin, ça le fait quand même moyennement pour FIFA.
D'autant plus que Cristiano Ronaldo est sur la pochette et partenaire, on va dire, tête de gondole
télé,
de FIFA.
De gondole de FIFA et l'avoir loupé sur FIFA alors qu'il est mieux fait sur PS, c'est un peu dommage en sachant que c'est la tête de gondole quoi. Donc...
Ben oui, puis je pense que lui il a du mal le prendre quoi.
Enfin voilà, c'est pas.
En même temps, lui il a une statue dans l'aéroport
oui,
à Porto
oui, ça
à
peut pas
Madère,
être pire que la statue.
Où c'est même pas sa tête, toi. On dirait que c'est il a pris un truc de Carglass. La...
Ah ouais, non, il fait
Franck Ribéry mélangé avec Ronaldo. Quoi. Ben, t'as joué. Bah, toi, t'as joué aussi comme tout le monde à FIFA à l'époque.
Ouais, moi, je me souviens parce que moi, j'ai FIFA 98 en tête. Et en fait, quand t'as dit que le premier c'était 93, j'ai joué à FIFA 93. Je me souviens. Je me souviens avec le terrain vu de haut, trois quarts et tout. Alors, il y avait même pas ISS à l'époque. En fait, je crois pas qu'il y avait.
ISS est sorti en 95,
quoi.
Le premier.
La concurrence, c'était Super Soccer.
C'était Super Soccer. Ouais.
Voilà, ou qui a rien à voir. Enfin,
il y avait pas de World Cup aussi sur NES ou je sais pas quoi là.
Un World Cup.
Ouais, c'est vieux ça.
Ah,
sur,
mais sur Game Boy, mais c'était un.
Non, c'était sur NES.
C'était un peu, c'était arcade à fond.
Oui, c'était arcade à fond. Tu faisais retourner du milieu du terrain et tout.
Ouais, tu mettais des mines, le Lumetum et tout. Ouais, non, bah voilà. Après, c'est marrant parce que arrivé sur le vrai truc pro avec les noms et tout.
Ouais,
pour moi, c'était, et mes potes, c'était super important d'avoir les vrais noms des mecs et tout. Voilà.
Et moi, j'ai commencé à jouer à FIFA aussi avec le 98 parce qu'il y avait Coupe du Monde. Le premier
ouais,
Coupe du Monde,
bah,
c'était
sûr,
le premier licencié. Ah,
le footix, quoi.
Non, mais c'était le premier licencié. C'était le premier licencié.
Et t'as le maillot du Brésil, j'espère que t'es fier.
Oui, et j'ai le maillot de la France 98 chez moi aussi. Mais non, mais concrètement, il y a eu une certaine évolution, c'est sûr. Mais ce qui était marrant, c'est qu'à l'époque, pendant très longtemps, on a toujours dit « Oui, PES, c'est la version simu du foot et FIFA, c'est la version arcade du foot.
Ouais. »
Et c'est marrant parce que tout à l'heure, on en discutait avec nos collègues de Fréquence Grenat qui était juste avant nous, et le truc qui revient tout le temps, même chez des gens qui ne jouent plus à FIFA aujourd'hui, qui n'ont pas vu FIFA peut-être depuis 10 ans, ils continuent à dire ouais, mais FIFA, comme tu as dit tout à l'heure, là, on fait des retournées du milieu de terrain pour mettre des buts. Honnêtement, si tu joues en mode champion, légende, sur FIFA ou sur PES, je sais pas s'il y a vraiment une différence au niveau. Gameplay.
FIFA est devenu vraiment. Est-ce que c'est pas à ce moment-là, justement, ce que je me suis toujours posé la question. Il y a 10 ans, PES c'était la référence, comme tu as cité les ventes. Hein,
PES
donc,
6,
c'était de la référence. Les mecs, c'était ouais, PES, FIFA, c'est de la merde. Et tout. Mm-hmm. PES, c'est le vrai jeu, c'est super réaliste et tout.
C'est ça.
Et il y a un moment où ça s'est inversé complètement. Mais... Donc, pourquoi
Moi, je pense que c'est le moment, en fait, où FIFA, tu as dû commencer à faire les. Je crois que ça a été les premiers des deux à faire. Tu devais en fait appuyer et doser tes passes et tes centres.
Oui,
et
exact.
Tout ça.
Tu pouvais doser
et
la
ça,
force
en fait,
de
ça a
tes...
tout changé, enfin, je pense. Et après, bah, maintenant, je crois que. Enfin, oui, PES le fait aussi. Mm-hmm. Mais FIFA a mis ça en premier en application. Et je pense que c'est ça qui a fait que les joueurs ont préféré faire ça parce que ça devenait plus technique et plus intéressant, du coup.
Oui, d'accord. Surtout, il y a peut-être eu aussi le fait que. Pendant, on va dire, sur la période de début 2006, c'est PS6, je crois que c'est 2006, non 2007 même, vers les années 2009-2010, il y a commencé à avoir une certaine perte. Parce que pendant quelques années, quand même, entre la version PS5, entre 2006 et 2012, on va dire, chaque année, on pouvait encore se tâter. Est-ce que PES est le meilleur? Est-ce que FIFA est le meilleur? Et puis pendant toutes ces années-là, PES a dit chaque année, vous allez voir, l'année prochaine, on sera les meilleurs. Vous allez voir, l'année prochaine, on sera les meilleurs. Au bout de 4-5 fois où t'as le trailer qui dit, vous allez voir, là, on est les meilleurs, et ça se ramasse, parce que clairement, ces jeux-là, après le FIFA 6, FIFA 2017, après PES, pardon,
PES, ouais.
Après cette période-là, bah, ils se ramassaient chaque année, et peut-être qu'il y a une période où ils ont juste perdu la confiance des joueurs, et que des joueurs PES sont venus. Moi, c'est par exemple à cette époque où je suis passé de PES 6, j'étais pro FIFA avant, je suis passé à PES sur le PES 5, j'ai fait PES 5, 6 et celui d'après, ça devait être PES 2008, et après j'ai fait ça jusqu'à PES 2010, 11, et voilà, chaque année là, on se rendait compte que ben, il fallait modder le jeu, quand on joue sur PC il faut le modder, pour pouvoir avoir toutes les licences, tout ça, et qu'à côté, il y avait FIFA qui commençait quand même à faire du bon aussi, et que malgré tout, eux, ils faisaient pas des teasers en disant « Vous allez voir, on est les meilleurs », mais ils étaient meilleurs.
C'est Electronic Arts, quoi. Ils restaient fiers, quoi. Ils restaient stoïques.
Toujours fiers, ouais. Electronic Arts, c'est
quand même le leader, quoi. Ouais, ouais.
Après, moi, ce que j'ai vu, surtout, a priori, le gros problème qu'il y a sur... je sais qu'on n'a plus beaucoup le temps, mais sur FIFA 18, donc j'en ai vu bah, par rapport à des joueurs pro de FIFA, je sais que ça te dépasse hein, cette notion. Mais
non, ça me dépasse pas ça.
Mais donc des joueurs pro de FIFA, bah que du coup que j'ai dans les contacts Twitter, et les mecs en fait se plaignent beaucoup que le jeu est pourri niveau défense en fait. Oui. Que, en fait, tout le monde apparemment met du, met régulièrement des 5-0, des 6-0, il y a des 10-2, des choses comme ça.
Mais ça, j'arrive
pas
à comprendre.
Et en jouant en versus, en fait. En jouant en versus, donc c'est que, bah, il y a l'IA, en fait, qui contrôle, on va dire, les autres défenseurs est pourri et clairement, ça queen beaucoup, alors que, ben, bah, la version de l'année dernière, était joué en compète et tout ça, il n'y avait pas ce souci, a priori. Enfin, du moins, personne ne s'en plaignait.
Ah,
et
là, chaque année, t'as quand même des gens qui viennent dire les serveurs, il n'y a que des kikous sur les serveurs. Donc,
sur tous les jeux.
Oui, mais en compète. Enfin, moi, j'ai regardé plutôt par curiosité à la fin de la compète, c'était l'Orange e-League 1, là. Mmh. Parce qu'il y avait du coup un mec de chez nous qui jouait. Ouais, le Manica, voilà, qui jouait. Et ça s'est fini par, je crois que ça s'est fini par un 2-1, la finale. Mmh. Enfin, voilà, c'est pas un 5-3 ou quelque chose comme ça, quoi. C'est 2-1.
Et je comprends pas d'où vient ce truc-là, parce que moi aussi, j'y joue tous les jours depuis 2 ans à FIFA 17, maintenant FIFA 18. Mm-hmm. J'ai jamais pris ou mis 5-0, 6-0 à quelqu'un, mais que ce soit en ligne ou contre l'IA.
Ouais, voilà, mais là, c'est genre screenshot à l'appui, j'ai vu les trucs et j'ai fait, mais, enfin, ils ont changé quelque chose à un moment dont je sais pas dans le codage, dans les scripts des défenseurs ou quelque chose comme ça, qui fait que ça fait une différence majeure, apparemment.
Mais c'est vrai que chaque année, bon, ça revient souvent, l'IA, la défense, les gardiens qui sortent comme des bœufs n'importe où.
Ben, c'est ça.
Il y a quelque chose de mauvaise foi aussi derrière en disant, putain, c'est encore l'IA qui a chié. Voilà.
Il y a de ça aussi.
Oui, ben, ça peut aider, effectivement. Mais est-ce que ça va pas plomber, là, tout de suite, le début de FIFA?
Ma manette, elle a pas marché.
De toute façon, le lancement va être plombé par les problèmes du serveur, comme chaque année.
Aussi, oui.
Je pense
aussi.
Il y a peut-être eu un petit problème sur le lancement qui a peut-être plombé les chiffres. Globalement, je pense que cette année, encore une fois, PES, de toute façon, va se ramasser plus ou moins parce que j'entends personne parler de la sortie.
Puis PES, il sort après.
PES est sorti il y a 3 semaines.
Il est sorti,
Donc, dans l'indifférence générale. Enfin,
mais oui, voilà, il y a Capucine à Nav qui.
Même Capucine à Nav n'en a pas parlé, c'est pour te dire.
On va s'arrêter donc
sur son émission.
C'est
elle
un peu le point
déjà.
Godwin de l'émission.
Oui, d'ailleurs, on reparlera peut-être un peu plus tard. On reparlera de son émission, voir où ça en est au niveau chiffres, audience.
Avec un plaisir non dissimulé.
On va peut-être regarder ses audiences. Alors, un dernier tour de table parce qu'on est un peu à la bourre. PES ou FIFA cette année, Jérém. Il faut choisir.
PES.
Ok.
Complètement au hasard. Vas-y.
Ben, tu dois choisir.
J'ai un attachement à FIFA.
Tu as un attachement naturel à FIFA.
Je pourrais vous raconter des souvenirs. D'ailleurs, j'aurais dû le faire.
D'accord.
Je ferai la prochaine fois. Comme donc, ça n'a rien à voir.
C'est moi qui dois décider de.
Tout à fait. Ah, bah oui.
D'accord. Eh bien, je vous le dirai la semaine prochaine.
Wow,
non, c'est suspense. Pas vrai parce qu'il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine. Notez bien, la prochaine émission, ce sera dans 2 semaines. Je ne sais plus la date, mais ce sera le samedi dans 2 semaines, le 14, merci. Et donc, allez, je choisis FIFA quand même, donc c'est FIFA qui a gagné.
Ouais, c'est moi.
Bravo. Je fais votre poids à tous les deux là.
Ok, donc c'est PES qui a gagné cette année. En tout cas, nous on se retrouve donc dans 2 semaines. N'oubliez pas le podcast de rediffusion de Game Trip FM, c'est dès demain sur GameTrip.net, et puis la rediffusion ce sera mardi soir, donc demain soir à 19h30. Merci à Ben et Jérém pour être
de
bons débatteurs et malgré leur goût, malgré surtout son goût prononcé pour les maillots de foot et pour les jeux de foot. Je ne donnerai pas de nom.
Il ne relève pas.
Non, je suis trop intelligent.
Il a raison.
Et donc, on se retrouve la semaine prochaine, dans 2 semaines.
À dans 2 semaines.
À dans 2 semaines.
À dans 2 semaines, le 14.